Bienvenue à tous dans le cadre de cette émission Histoire et mémoire. Je suis Damien Chantraine, le directeur du musée d'art et d'histoire de Dreux, chef de service musée et patrimoine, et j'ai le bonheur aujourd'hui de vous présenter une petite intervention que j'ai donnée à l'église Saint-Pierre de Dreux il y a peu de temps, intitulée « Une maison dans le ciel ». Un titre bien poétique sur lequel nous allons revenir tout au long de cette émission. Il s'agit en vérité d'un titre qui évoque la légende de la Santa Casa de Lorette, la Sainte Maison de la Vierge. Pourquoi cette légende aujourd'hui est-elle au cœur de cette émission? Eh bien parce qu'elle figure sur la baie 27 de l'église. La baie 27, c'est une verrière, une grande verrière dans une baie ajourée de l'église. Lorsque vous entrez dans l'église, elle se trouve dans l'une des chapelles qui est sur votre gauche. Et sa particularité, c'est que cette verrière délicieuse est peu colorée. Posons-nous donc d'abord les questions historiques et techniques qui entourent cette verrière, et on en viendra ensuite au sujet, le sujet de cette maison de la Vierge à Lorette, ce qui est figuré sur la verrière. La datation, elle fait débat. Dans le cadre de l'étude historique des vitraux de l'église, qui a été commandée par la DRAC Centre-Val de Loire, Direction régionale des affaires culturelles, en 2006, bien Laurence Rivial, qui est une historienne de l'art, évoque les années 1525-1530, tandis que Fabienne Audebran, qui est conservatrice départementale des antiquités objets d'art, pencherait plutôt pour les décennies 1540-1550. Ces années-là, en effet, ces très larges années 1525-1550, marquent l'apogée de ces somptueux décors en grisaille, une technique qui est utilisée, je vous l'ai dit, dans le cas présent. Auparavant, les vitraux sont toujours colorés. Cette mode de la grisaille, elle est née, en effet, en Champagne, plus particulièrement à Troyes, dans les années 1525. Troyes, une ville riche de ses foires, et voici donc en particulier à Troyes l'église Saint-Pantaléon, dont les verrières datent de cette époque. La grisaille est le jaune d'argent sur vert blanc, avec souvent passage d'éplomb soutenant le dessin du décor historié ou décoratif, participe à ce goût très court pour les réalisations en camailleux. Et on en retrouve, un petit peu après, jusqu'en Normandie, c'est-à-dire jusqu'à chez nous. Je vous cite par exemple Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors, qui conserve très probablement parmi les plus beaux exemples français de ce type de grisaille, notamment le vitrail de la vie de la Vierge.
Thank you.
Le vitrail drouet, hein, celui qui nous intéresse aujourd'hui, doit donc faire partie de cet ensemble un petit peu plus tardif, normand. J'ai une autre question qui est pour le moment encore en suspens, c'est celle du donateur qui a donné l'argent pour réaliser ce vitrail. Bien, les comptes de la fabrique de l'église Saint-Pierre ont été dépouillés, mais le nom du donateur n'y figurait pas. Relions donc ce vitrail au contexte historique drouet, ce qui me conduit à penser à Marie d'Albret, qui était duchesse de Nevers et de Rethel, et qui hérite, à la mort de son père Jean d'Albret, en 1524, du titre de comtesse de Dreux. Elle passe d'ailleurs le reste de ses jours dans la forteresse comtale, qui abrite aujourd'hui la chapelle royale, très célèbre, et le reste de ses jours, c'est jusqu'en 1549. Donc vous voyez qu'on est dans cette fourchette de datation que l'on propose. Cependant, je dois quand même vous avouer qu'il y a peu de chances pour que la duchesse d'Albret soit la donatrice. D'une part parce qu'il n'y a aucune évocation de ses armoiries dans le vitrail, et surtout parce que l'église Saint-Pierre est une église paroissiale, et que la duchesse fera plus volontiers un don à la collégiale Saint-Étienne, qui a aujourd'hui disparu, ou qui se trouvait à l'endroit même où est aujourd'hui la chapelle royale. Donc peu de chances qu'elle donne à la paroissiale, aussi belle fut-elle. De bons bourgeois ou des ecclésiastiques peuvent d'ailleurs être plus novateurs dans leurs choix esthétiques que la noblesse du cru. Alors le donateur, la datation restent donc des éléments inconnus dans notre histoire. Il en va ainsi des belles histoires, plus savoureuses lorsqu'elles conservent une part de mystère. Alors, venons-en au fait. Une maison dans le ciel a un bien curieux titre pour parler d'un vitrail, pourtant bien ancré dans cette fenêtre de l'église Saint-Pierre. Autant dire qu'il ne risque pas de s'envoler. Le vitrail représente en réalité une légende médiévale qui s'est stabilisée au début du XVIe siècle dans la version communément répandue de nos jours. Il s'agit de la légende de la maison de la Vierge, dite aussi Sainte Maison de Notre-Dame de Lorette. Alors cette légende, je vais vous la raconter. Il était une fois, il y a plus de 2000 ans, à Nazareth, au lieu où vit Marie, qui enfante du célèbre Jésus, Jésus de Nazareth. Eh bien, sa maison, en 1291, est en danger. On est à l'issue de la 8e croisade, et pour mémoire, la 8e croisade est une campagne militaire qui a été lancée par le roi Louis IX, futur Saint-Louis, en 1270, à la suite des menaces que le sultan Mamelouk Baybars faisait peser sur les États latins d'Orient. Cette croisade s'achève par la défaite des catholiques. Et là, comme par enchantement, la maison de Marie est sauvée par les anges. Ceux-ci l'emmènent dans le ciel, ils volent, et atterrissent, si j'ose dire, à Tersatz, en Dalmatie. Alors la Dalmatie, pour ceux qui ne connaissent pas, fait face à la péninsule italienne. Elle est aujourd'hui couverte par plusieurs États, la Croatie, le Monténégro et l'Herzégovine. Et Tersatz est aujourd'hui une localité de la ville de Rijeka, en Croatie. C'est à l'époque un État catholique, depuis le schisme entre les églises d'Orient et d'Occident, donc a priori véritablement animé par la foi. Eh bien, ce ne fut pas le cas, et devant le peu de révérence que suscite cette maison chez les locaux, les anges l'emportent encore ailleurs, et toc, encore un voyage dans le ciel, et nous voilà parvenus dans une forêt près d'Ancône, dans l'actuelle Italie, forêt que possède une dame nommée Laurette. De nombreux dévots s'y pressent, mais cette affluence attire aussitôt les brigands qui rançonnent et massacrent les pèlerins. C'est donc la cause d'une nouvelle translation. Et c'est parti pour quelques kilomètres non loin de Lorette, hein, au mont des deux frères, juste à côté. Hein. Nommé ainsi car deux frères en sont propriétaires, et ces deux frères, comme cela arrive dans les fratries, se fâchent, volent même les oboles des pèlerins. C'est donc reparti pour les anges qui enlèvent de nouveau cette maison pour la replacer définitivement à Lorette, où elle se trouve depuis 1386. Tout de même, après tant de voyages, cette maison est-elle encore la bonne? C'est ainsi que l'on diligente des experts en Palestine pour prendre les mesures des fondations qui y sont restées. Ouf, elles correspondent. Lorette, aujourd'hui, eh bien, fait toujours l'objet de pèlerinages, autant pour prier que pour admirer d'ailleurs la superbe église, la basilique de Lorette, qui entoure la maison de Marie. Et cette basilique est édifiée au début du XVIe siècle, car vous l'avez compris, c'est véritablement à la Renaissance que cette légende connaît un regain d'intérêt. Si la légende elle-même que je vous ai racontée date du XIIIe siècle, elle est racontée par écrit pour la première fois au XVe siècle par un certain Pietro di Giorgio Tolomei, qui était gouverneur de l'Alma Domus, une société qui avait en charge d'administrer les biens de la maison de Lorette. On compte ensuite trois relations en français entre 1531 et 1535, et cette abondance de textes d'ailleurs coïncide avec la pose en 1531 de la première pierre du sanctuaire actuel. Alors, le vitrail, si vous le regardez dans l'église Saint-Pierre, est assez fidèle à la légende. Je vous laisserai donc aller constater. C'est assez difficile parce que certains épisodes sont un peu effacés, mais si vous prenez le temps, vous pourrez considérer donc cette légende pratiquement dans son entier. En conclusion, pourquoi cette maison dans le ciel? Bien, cette image d'une maison qui vole a une charge très symbolique. Symbolique d'abord parce qu'elle possède un antécédent biblique, celui de la Jérusalem céleste. Selon le livre de l'Apocalypse, dont l'auteur, traditionnellement identifié à Jean, l'évangéliste, décrit ses visions surnaturelles, la Jérusalem céleste est l'image du lieu où les fils et les filles de Dieu vivront leur éternité. Elle serait donc la ville sainte, la demeure de Dieu dans le ciel. Je vais vous lire d'ailleurs cette très belle description qui est celle de l'Apocalypse et qui vous montre tous les atours, tout l'apparat de cette ville dans le ciel. La ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une très haute muraille avec 12 portes et 12 anges gardaient les portes. Sur les portes étaient inscrits les noms des 12 tribus des peuples d'Israël. Il y avait 3 portes de chaque côté, sans surprise, 3 à l'est, 3 au nord, 3 au sud et 3 à l'ouest. La muraille de la ville reposait sur 12 pierres de fondation sur lesquelles étaient inscrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. S'ensuit une longue énumération de jaspe, de saphir, de chalcédoine, émeraude et autres sortes de pierres précieuses. Les 12 portes elles-mêmes, d'ailleurs, sont faites de 12 perles, car chaque porte est faite d'une seule perle. Et surtout, la place de la ville est d'or pur, transparent comme du verre. Pour en revenir à Lorette, d'où vient donc l'idée que la maison de Marie fut portée par les anges? On voit le parallèle avec la Jérusalem céleste, certes, car les anges y ont une place de choix, nous venons de le voir. Notamment près de la Vierge, dont la tradition catholique postérieure voudrait qu'elle soit la reine. Mais une légende comprend toujours une part de vérité. Alors, soyons terre à terre. De Angelis serait le nom de famille des maçons, des personnes à l'origine de la translation, et qui auraient créé la légende du transport par les anges dans l'écart entre le latin écrit et l'italien vulgaire parlé, que l'on a traduit par donc les anges. Autre histoire de translation, celle beaucoup plus étonnante de ce vitrail lui-même, dont 2 éléments avaient disparu depuis la fin des années 90. En effet, ils avaient été confiés, ces vitraux, pour restauration auprès d'un maître verrier et celui-ci avait fait faillite. Il était parti avec, sans vraiment y prendre garde. La police nationale avait tout de même été saisie. Et en 2016, ils ont été retrouvés à Nice, où ils avaient été transportés et d'où ils sont revenus à Dreux, par avion. Depuis, nous les avons restaurées, puis reposées au sein de cette verrière qui est désormais complète. Le comble du comble, voulez-vous savoir? En 1920, le pape Benoît XV a déclaré la Vierge de Lorette patronne des voyageurs aériens et des pilotes. On fête le jubilé actuellement depuis 2019 jusqu'au 10 décembre 2021. Cette petite histoire que je viens de vous raconter en amène une autre. Car actuellement, nous célébrons un autre voyage qu'est celui qu'a réalisé non pas par avion, mais à pied, depuis Paris jusqu'à Dreux, notre célèbre écrivain mondialement reconnu Victor Hugo. Victor Hugo a alors 19 ans en 1821, au moment où, poussé par son amour pour Adèle Fouché, il la rejoint dans notre belle cité du Rocasse et il la cherche dans toute la ville. Il lui arrive tout un tas d'aventures qui sont racontées dans le cadre d'une exposition au Musée d'art et d'histoire de Dreux que je vous invite donc à venir voir le plus rapidement possible, même si vous avez du temps car elle dure jusqu'au 19 décembre. Eh bien, cette exposition, intitulé « D'encre et de papier, Victor Hugo en goguette », présente des œuvres qui sont sorties des réserves du musée, des dessins, des gravures, autrement dit des arts graphiques, qui illustrent cette histoire de Victor Hugo et de son voyage à pied de Paris jusqu'à Dreux, racontée par un historien drouet que peut-être certains connaissent, qui s'appelle Charles Le Ménestrel. Un historien de la fin du XIXe siècle, qui a d'ailleurs correspondu avec Victor Hugo, donc on est au plus juste de cette belle histoire que nous vous racontons. Cette histoire sert de fil conducteur à l'accrochage de ces œuvres tout droit sorties des réserves, inédites, jamais présentées, et l'articulation a été conçue avec notre cher défenseur du patrimoine, Stéphane Bern. Voilà, donc Un bon duo Victor Hugo Stéphane Bern, deux défenseurs du patrimoine que vous pourrez découvrir donc au musée d'art et d'histoire jusqu'au 19 décembre. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode d'Histoire et Mémoire. Au revoir.